Bonjour tout le monde. Donc bienvenue dans la nouvelle émission de Derrière le voile. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Florence Fouéré. Bonjour
Hello
Florence.
Ludo, merci à toi.
Alors Florence, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont nous regarder? Qui es-tu?
Qui je suis? Alors, j'ai 41 ans et demi. Je trouve que les demi à mon âge comptent encore plus qu'avant. Voilà, pour ça que l'on parle. Je suis qui je suis? Je suis une femme, une maman d'une petite fille de 6 ans et demi. Une entrepreneure depuis plus de 13 ans et je dirais que je suis une idéaliste pragmatique qui a à cœur de contribuer à l'amélioration du monde bah par le biais de son activité entrepreneuriale. Voilà, pour faire court.
Et ton activité entrepreneuriale, si tu peux en dire un peu quelques mots
Oui,
ou...
avec plaisir. Alors aujourd'hui, je suis justement en pleine refonte, en pleine restructuration, parce que en 13 ans, eh bien des activités différentes j'en ai eu, hein, que j'ai switché moi du monde du salariat, j'étais dans les ressources humaines, mais on en parlera peut-être plus tard, et petit à petit, je suis tombée dans le maquillage, l'esthétique, enfin voilà, plein de choses différentes. Et aujourd'hui, j'accompagne on va dire les particuliers. D'accord, mais aussi les professionnels, eh bien, à être un peu plus en phase avec leur vie, avec leurs projets. Donc, les entrepreneurs à créer et développer une entreprise porteuse de sens, porteuse de valeur, porteuse de richesse à tout niveau. Et puis, les particuliers à créer une vie qui leur ressemble un peu plus, notamment en déprogrammant eh ben des croyances, des mémoires, en se séparant tout doucement de choses qui ne leur ressemblent plus. Voilà.
Merci. Alors le principe de Derrière le voile, c'est que bon, il y a plein de gens qui te connaissent,
Oui.
certains qui ont suivi tes formations, tes accompagnements, qui ont pu lire ton livre, te voir sur scène aussi, mais enfin sur scène en conférence, hein, pas sur scène en spectacle, hein, pas encore. Mais justement, le but de Derrière le voile, c'est de venir un petit peu ben, dévoiler ta vie de personne. Qui es-tu derrière ce qu'on connaît de toi? Donc, eh ben, on va revenir à ton enfance.
Allons-y.
Alors, allons-y. Alors, tu es né où?
Je suis née à Decize, dans la Nièvre, dans le 58. C'est pas un département des plus reconnus et connus pour ses plages, pour tout ça. Non, il est pas extrêmement connu d'ailleurs, mais je suis née là-bas.
Et alors, comment c'était ta famille, ton enfance, l'ambiance familiale?
Comment c'était cette enfance? C'était une enfance très heureuse, une enfance, je dirais, très simple, aussi très connectée plutôt à la campagne, parce que j'ai quand même grandi. Alors, de 2-6, on en est parti rapidement. Ensuite, j'ai été du côté de Beaune. Alors là, c'est déjà plus connu, hein, Beaune, 21, voilà. Hein, et puis, les 20. et j'ai grandi vraiment à la campagne, avec mes grands-parents maternels qui étaient là de temps en temps, que je voyais de temps en temps, mes grands-parents paternels un peu moins, mon papa qui était pas mal en déplacement, mais que je voyais quand même très régulièrement, et ma maman qui était mère au foyer, donc que je voyais très très souvent. Et donc moi, ma prime jeunesse, ma prime enfance, eh bien, c'était de vivre à côté d'une ferme. Donc, j'étais souvent auprès des petits-enfants de la ferme, vers les poules, les vaches, etc. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai voulu avoir des poules il y a quelque temps. Mais c'était une enfance vraiment au contact de la nature, de la simplicité, de valeurs quand même, on va dire, avec une éducation. Tu vois, je fais ça, hein, une éducation. Je dirais pas strict, mais quand même avec des règles et une éducation que j'appellerais de patriarcale classique, tu vois, comme on peut avoir avec un papa quand même qui tient les rênes, etc. Je pense d'ailleurs que ça a beaucoup nourri ce que j'ai pu développer dans mon entreprise par la suite, dans ce que j'ai exploré, de ce que j'ai voulu transcender quelque part.
Et donc, une fratrie, des frères, des sœurs.
Une petite sœur, enfin une petite sœur qui est un peu plus grande que moi en taille, mais qui a 4 ans de moins que moi. Héloïse, voilà, qui nous a rejoints 4 ans plus tard. Ça a été, je pense que ça a été quand même, enfin, c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûre parce que je l'ai vue en thérapie par la suite, c'est que son arrivée a été quand même un gros choc pour moi, qui avait l'habitude d'être bien tranquille finalement, hein, en tant que fille unique, etc. Donc ça s'est très bien passé, on va dire, quand elle est arrivée, mais je suis devenue la grande, voilà. Je suis devenue la grande et je m'adresse à tous les aînés qui nous écouteront. Tout ce que ça peut engendrer, surtout à une époque où, c'est pas vieux, hein, une quarantaine d'années, mais c'est encore, on va dire, dans les normes, dans les standards. Il y a encore l'aîné s'occupe du petit, etc. Donc, ça n'a pas été non plus le côté, on entend des fois des gens dire j'ai été la mère de ma sœur ou de mon frère, j'ai été le père, j'ai dû. Non, moi, j'ai pas eu du tout des parents démissionnaires, bien au contraire. Mais je devais montrer l'exemple, l'emmener avec moi à des anniversaires, lui donner des choses même quand je n'avais pas envie. Il y avait vraiment ce côté de. Je devais avoir un esprit finalement un peu adulte avant l'heure. Voilà. En
Donc,
bon un de l'énéagramme que je suis, hein, Ludo.
donc plutôt un environnement familial assez sain, assez heureux quand même.
Oui, heureux, sain, soudé, voilà, soudé avec un papa qui grimpe les échelons dans la même entreprise, à force de travail aussi, voilà, de travail. Il y a vraiment cette notion de, on n'a pas rien sans rien. Il y a toutes ces valeurs aussi de la famille, du travail, voilà, quelque chose de très classique en fait, j'ai envie de dire, par rapport à la culture française, quoi, de cette époque en tout cas.
Donc voilà, un berceau familial plutôt sain. Après, et donc après ta scolarité, est-ce
Ma
qu'il y a des choses
scolarité.
marquantes?
Ouais, alors des choses marquantes. Moi, j'ai été une petite fille, oui, parce que j'ai pas forcément décrit quel type de petite fille j'étais, mais assez solitaire quand même, assez solitaire, assez introvertie, à créer des tas de choses tout le temps, à avoir beaucoup d'empathie en fait. Ça, bien sûr, hein, j'en ai pas conscience quand je le vis, mais c'est par la suite que je fais ce constat. Et donc une scolarité de, tu vois, un petit peu comtesse de Ségur, petite fille modèle, quoi. Hein. Petite fille modèle qui réussit à l'école, voilà, qui est en primaire et dans le trio de tête, et puis après qui continue sa scolarité, collège, lycée, etc. Et puis prépa littéraire. Alors là, je suis plus dans le trio de tête, hein, prépa littéraire, ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà, je fais école préparatoire. Et en fait, je dirais que je ne dépasse pas des lignes, je ne dépasse pas du cadre, tu vois. C'est même hyper important pour moi de ne pas dépasser, de répondre aux attentes tant de mes parents que des profs, que de la société en général, en fait. Et j'ai quand même, je pense, quelque part mon exutoire, ben dans le dessin, voilà. Dans le dessin, dans les créations que je peux faire, dans ma vie un petit peu, dans mon monde intérieur, dans tout ça.
Donc en fait, tu n'as pas trop eu de phase, toi, de rébellion par rapport à l'autorité, mais c'est plutôt une phase de, finalement, pas d'introspection, mais de bulle intérieure, quoi.
Ouais, moi, ma rébellion, c'est bien plus tard.
Oui, ça arrive à un moment ou à un autre, de toute
C'est
façon.
ça, ouais.
OK. Donc voilà. Une enfance normale, une
Ouais.
adolescence, quand tu me dis c'est jusqu'au bac, quand tu parles préparation littéraire, c'est jusqu'au bac?
La prépa littéraire, Hippocampe, c'est après le bac. Donc jusqu'à mes 20 ans, de 18 à mes 20 ans. Et puis après, je continue, je fais une licence pluridisciplinaire en sciences sociales. Et puis je continue avec une maîtrise en administration économique et sociale, là, du côté de Nancy. J'étais sur Dijon pour mes les premières études post-bac, après Nancy, et je termine à Lyon avec les ressources humaines, avec un master RH. On appelle ça troisième cycle à l'époque.
Et là après, donc là après, tu commences à travailler dans les ressources humaines.
Commence à traiter dans les ressources humaines, et c'est là que l'adolescence finalement arrive, tu vois, et j'ai plutôt 24 ans, 24-25 ans. Je suis recrutée par une entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études. Je vais faire un autre stage entre-temps et la première entreprise me rappelle en me disant on a un poste en CDI qui se libère, un poste de gestionnaire RH, donc avec un périmètre de 150 personnes, hein, 150 salariés, donc Freudenberg, groupe allemand, et qui a une antenne à Langres. Et je précise, je prononce bien Langres, parce que quand je le dis rapidement, les gens croient Londres. Ils disent « Ah, oh, génial !» Alors, Langres, ce n'est pas tout à fait Londres, mais ça a été génial. Ouais. J'arrive à Langres, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, c'est un peu plus haut que Dijon, un peu moins haut que Nancy. En tout cas, il fait froid. Et à part les deux grosses entreprises, Plasticomium et Freudenberg, et les locaux, on va dire, voilà, il y a, je sais, je crois qu'il y avait aussi une boîte de nuit à l'époque quand même, tu vois. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve à être une vingtaine, peut-être même une trentaine de jeunes entre 24, 25, 26 ans, parce qu'il y a eu toute une vague de départ à la retraite. Et donc, ils ont recruté des ingénieurs, des cadres RH, enfin voilà, des cadres d'un peu partout, des différentes spécialités. Et donc, on se retrouve cette bande de 30. De 30 jeunes, garçons, filles, 24, 25 ans. Donc, on bosse beaucoup la journée, mais les week-ends et certains soirs, eh bien, on fait la fête. Et là, je sens effectivement que l'adolescence que je n'ai pas vraiment eue, c'est à ce moment-là qu'elle se passe.
Et en tout cas, tu nous dis tu as 24, 20, 25 ans à peu près, mais de toute l'adolescence et jusqu'à maintenant, tu nous as pas parlé de ta vie amoureuse.
Oui, alors pareil, très sérieuse, vie amoureuse, on reste dans le cadre. Je sors avec un certain Arnaud, voilà. Si tu nous écoutes, Arnaud, je ne sais pas, mais sait-on jamais. Donc là, c'est juste après mon bac, en fait, après mon bac. Et je reste avec lui pendant 7 ans, quand même, de 18 ans, hein, quand je vous dis sérieuse jusqu'au bout. 18, donc 19, 20, 21, 22, ouais, c'est ça, il y a 25 ans. J'arrive à Langres et Langres vient déstabiliser beaucoup de choses en fait. Donc pendant toutes mes études, même si j'ai navigué à Nancy, à Lyon, lui m'a suivi un peu à Lyon parce qu'il avait un job là-bas, etc. Mais cette vie amoureuse, elle reste. J'ai l'impression que quand maintenant, quand j'y repense, hein, après coup, je me revois à 19 ans, 20 ans, 21 ans, faire le ménage dans. On n'a pas d'appartement commun encore à cette époque-là, mais à quelque part. Reproduire ce que j'ai vu faire chez mes parents, en fait. Hein. Je reproduis complètement ce que j'ai vu faire, et donc avec une vie d'adulte et à vivre comme une adulte assez jeune, quoi. Mais j'arrive à Langres et là, tout fout le camp.
Et donc, à Langres, vas-y, explique-nous un peu. Donc, tu es jeune cadre en RH.
RH.
Tu es dans un lieu un peu, on va dire, un peu perdu finalement.
Paumé, mais oui.
Et qu'est-ce qui se passe alors?
Qu'est-ce qui se passe? Rien qu'en le disant, je crois qu'il y a l'émotion qui remonte encore. Donc, je vous contextualise quand même la chose. Vous imaginez une soirée, hein, revenez quelques années en arrière, ceux qui nous écoutent. Une soirée bien arrosée, d'accord? Et là, je crois que je reviens des toilettes parce que j'ai fait une surcharge d'alcool et puis je ne tiens pas forcément bien la colle à cette époque-là et pas forcément mieux depuis. Et je reviens, et là, j'ai un de mes meilleurs amis qui prend la tête entre ses deux mains, qui me regarde droit dans les yeux, et qui me dit, mais tu sais, Flo, on t'aime quand t'es parfaite, mais on t'aime surtout quand tu fais de la merde. Et il me dit cette phrase-là, il me dit, on t'aime quand tu fais de la merde. Et cette phrase-là, je crois qu'elle a été fondatrice, non pas que derrière j'ai fait n'importe quoi, mais je crois que ça a été quelque part ce que des coachs ou des thérapeutes ont pu me dire plus tard avec des phrases un peu plus, on va dire, un peu
Plus
plus
soft.
peaufinées, un peu plus psychologiques. Mais quelque part, cette phrase-là, elle voulait me dire, mais lâche quoi, t'as le droit d'être complètement toi-même, de ne pas être parfaite. Et de toute façon, même quand t'es complètement imparfaite et même quand tu fais rien pour faire des choses bien, c'est comme ça qu'on t'aime en fait. Et cette phrase-là, elle m'a fait un bien fou. Elle m'a fait un bien fou parce qu'elle m'a permis d'enlever une certaine pression dans toute cette énergie que je mettais à faire les choses bien, à pas me tromper, à marcher ma parole tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que j'avais fait très jeune finalement.
Tu avais le droit de sortir du cadre et de faire du hors-piste.
Eh ouais, complètement. C'est ça.
Et donc là, tu découvres, ben voilà, tu découvres que tu peux aller en dehors du cadre.
Ouais.
Et alors là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, dans mon esprit, bon, ça fait 7 ans que je suis avec la même personne. La suite logique, c'est qu'on peut-être on se marie, qu'on s'installe vraiment ensemble, etc. Et sauf que en l'espace de 24 heures, il y a tout ça qui vole en éclats, en fait. Je rencontre celui qui deviendra par la suite mon mari, qui est aujourd'hui mon ex-mari depuis peu, avec qui je suis restée presque 15 ans et qui sera le père de ma fille. Et donc, il est aux antipodes, il est aux antipodes on va dire, de l'image de mon père, aux antipodes de l'image de mon ex. C'est quelqu'un qui est très fêtard, qui est très libre, qui est très spontané, etc. Et je crois que c'est ça qui m'attire chez lui, parce que c'est ça que j'ai envie d'explorer chez moi, en fait. Cette liberté qu'il a. Je me souviens, parce qu'on travaille du coup, comme on est beaucoup, on travaille, alors, moi sur un plus petit site, lui sur le grand site, mais on a des réunions des fois en commun, et quand je le vois finalement parler à la hiérarchie, toujours respectueux, mais avec un esprit très un peu frondeur et quand même très libre en fait. Et je me dis, waouh, c'est possible quoi, ça marche. Et je sens que ça vient chercher chez moi un appel de sortir vraiment du cadre quoi. Mais je le fais dans ma vie perso, mais je le fais pas encore dans la vie pro. C'est pas encore suffisant. Il me faudra quelque chose de bien plus fort.
Donc là, tu es toujours à Langres.
Je suis
Tu
toujours à
rencontres
Langres.
donc le père de, enfin, qui va,
Ouais,
l'homme qui va devenir le
Alexandre.
père de ta fille.
Ouais.
Donc là, à un moment donné, vous mettez ensemble.
On se met ensemble, on sort tous les deux. Enfin, non, on est toujours en coloc. Moi avec une amie, lui avec. L'ami dont je parlais de tout à l'heure. Et puis, du jour au lendemain, Alex me dit, et si on allait vivre dans le sud-ouest? Pourquoi pas? Donc, on est en 2008, là, on quitte tous les deux nos CDI. Lui retrouve un CDI dans la région de Langon, donc à 1 heure de Bordeaux. Moi, je retrouve un CDD, mais dans une grosse boîte, la Snecma, Propulsion Solide, Groupe Safran, l'aéronautique. Donc un poste moins généraliste, beaucoup plus spécialisé gestion de compétences, mais avec voilà avec on va dire de manière assez facile en fait. On avait des bons CV, j'avais forcément un CV sans trou, moi, donc tout était parfait. Et donc on n'a jamais encore habité ensemble, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, mais bon voilà, on modulait, etc. Et puis là, on arrive à Langon, on habite ensemble, et très vite je tombe enceinte. Enceinte en août 2009. Tout va toujours très bien. Et puis en décembre 2009, à l'échographie du second trimestre, là on nous dit qu'il y a sans doute un souci et un gros souci en fait. Voilà. Sauf que on n'a pas encore de rendez-vous bien définitif avec. On n'a pas encore une échographie, on va dire spécialisée, donc on doit patienter encore un petit peu. Donc, ce n'est que 15 jours plus tard qu'on fait l'échographie décisive qui nous dira que notre petite fille a une maladie létale génétique, donc de laquelle on ne réchappe pas. Donc, il faut passer par ce qu'on appelle une IMG, une interruption médicale de grossesse. Et donc, ça se fait par accouchement, par voie naturelle, comme un vrai accouchement, sauf que le bébé est plus petit et qu'on doit lui faire une injection létale. Justement, avant sa naissance. Et ça, le tsunami, c'est celui-ci. Voilà. Ça, c'est le tsunami.
Oui, parce que là, tu es enceinte déjà de 5 mois, à peu près.
Ouais, même de 5 mois et demi, et quand j'accouche,
Oui,
c'est j'en
donc.
suis à 6 mois. Ouais.
Oui. Voilà. Et alors?
Et alors, c'est un énorme deuil à faire. C'est même quelque part quelque chose qui m'a. J'ai fait de l'énergétique, je suis une chinoise par la suite, et mon maître de l'époque m'avait dit, tu avais perdu quelque part ton. Comment il appelait ça? J'ai un trou de mémoire. C'est pas le chi. Le chi, c'est ce qui nous traverse. C'est pas le chang, mais j'ai un trou de mémoire. En tout cas, c'est l'âme. Il m'a dit, tu avais perdu ton âme. Et c'est vrai que les photos de
Le
l'époque,
chêne,
le
non?
chêne. Merci, je le retrouvais plus. J'avais perdu le chêne et quand je regarde les photos de l'époque, mon regard est vide en fait. Mon regard qui est assez pétillant est complètement vide à cette époque-là. Et là, il y a plein de choses. Alors, d'un point de vue professionnel, je prends mon CV, j'en fais une belle boulette, je la balance et j'en fais un panier. Je décide de quitter la boîte dans laquelle j'étais. Je romps mon CDD. Je sais plus à l'époque comment ça se passe. Je sais que j'ai une amie qui vient prendre la suite. Elle quitte sa région de Moselle, Meurthe-et-Moselle, pour venir prendre la suite et elle a continué après. Mais moi, je ne retourne plus ni dans cette entreprise ni dans le salariat. Et en l'espace de 3 mois, je monte un dossier pour créer mon entreprise, en micro-entreprise à l'époque, auto-entreprise. Et je suis hébergée par une couveuse d'entreprise à Bordeaux, dans une activité de maquilleuse événementielle. Donc tout ce que j'ai fait en parallèle, je parlais de l'option de dessin tout à l'heure, etc. Mais j'ai pas parlé du fait que je maquillais beaucoup aussi mes amis, et puis pour des carnavals, pour des fêtes de village, etc. Je maquillais les enfants. Et ben c'est à ce moment-là en fait que je fais ce que je voulais faire à mes 18 ans. À mes 18 ans après le bac, je voulais faire l'ITM, l'Institut Technique du Maquillage à Paris. Et mon père m'avait dit, écoute, tu sais, c'est pas très sûr comme voie, fais prépa littéraire et tu verras par la suite. Donc, je reviens à mon choix et je crée mon entreprise dans l'événementiel. Voilà. Et en parallèle, eh bien, cette première IMG m'ouvre à ce que je dirais le monde de l'invisible, le monde du sensible. Quelque chose qui m'intéressait avant, mais de manière plus intellectuelle, là, j'y plonge de manière carrément corporelle, en fait, hein. Énergétique, corporelle, c'est-à-dire que. Je sens que je m'ouvre à d'autres perceptions qui sont beaucoup moins cartésiennes et que j'ai continué à explorer depuis, en fait, qui sont un des fondements de ce que je peux faire aujourd'hui. Donc ça, c'est la première IMG, voilà. Et puis, il y en aura encore deux autres, voilà. Un an plus tard, parce que ce qu'on croyait être une maladie génétique, à gène dominant, c'est-à-dire développé par le bébé lui-même, est en fait une maladie à gène récessif, donc que mon ex-mari et moi avions transmis. Voilà. Mais en l'absence d'antécédents familiaux, forcément, c'était passé inaperçu. Donc, rebelote. Un peu plus d'un an plus tard, deuxième IMG, un peu plus tôt cette fois, parce que quand même, il s'était préoccupé de se dire, on ne sait jamais, on va faire une échographie de contrôle un peu plus tôt. Et là, la deuxième IMG, il y a une part de moi, autant dans la première, j'ai vraiment cette âme de maman à accompagner mon bébé jusqu'au bout, même pendant les 15 jours où je sais qu'il n'y aura plus rien, à continuer à bien faire, à continuer à manger des choses pour éviter la toxo, enfin des choses complètement aberrantes, mais avec cette envie de rester une maman quelque part qui fait bien les choses, parce que c'est comme ça, je pense, que je préparais mon deuil. Là, cette deuxième IMG, je continue ça, mais il y a une forme de colère qui s'empare de moi et la peur surtout, la peur de me dire je vais laisser ma peau si quelque part si je donne pas un gros coup de pied dans la fourmilière quoi. C'est une fourmilière intérieure, hein, mais quelque part de plus en plus, j'allais dire je me marginalise, pas de manière sociétale, mais dans ma manière de faire mon métier. Je me forme au maquillage énergétique. Je reprends les études, je passe mon CAP d'esthétique pour avoir un passeport de plus, on va dire, pour mon entreprise. Et je creuse, en fait, je creuse l'invisible, je creuse le rapport au corps, le rapport aux émotions, j'entame beaucoup de thérapies, enfin beaucoup. En tout cas, des thérapies très profondes, c'est plutôt ça, éthiothérapeute, etc. Et j'explore le passé dans mes liens familiaux, j'explore le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes grands-mères, dans la vie de mes arrière-grands-mères, etc. J'ai besoin de comprendre autrement que par la seule raison génétique, en fait. Pourquoi on nous est arrivé ça deux fois de suite, etc. Et je crée, voilà, dans mon entreprise, je crée des concepts. Je dépose des marques, enfin, je suis très, très, très créative et j'explore l'humain. J'explore l'humain à travers l'esthétique, à travers l'énergétique, à travers tous les outils, en fait. J'ai besoin de comprendre l'humain et à travers ça, besoin de me comprendre. Et puis, il y aura encore une troisième IMG. Donc, cette fois, quand on revient en Bourgogne, Voilà, ça sera cette troisième IMG qui me connectera vraiment à quelque chose de très puissant, de très profond, avec, je pense, des fréquences vibratoires jamais retouchées depuis à ce niveau-là, au moment, quelques moments avant l'expulsion, voilà, l'accouchement. J'ai l'impression d'être branchée au cosmos, je vois des images, j'avais envie d'y rester en fait. Et là, les sages-femmes arrivent en courant en me disant il y a eu un problème sur le monitoring. Je ne sais pas et je ne saurai jamais exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais juste que j'ai vraiment été connectée et branchée à des dimensions parallèles. Voilà. Et je pense que ce jour-là, j'ai téléchargé des choses par rapport à Femina Quest, le concept avec lequel j'ai accompagné des femmes par la suite. Je pense que j'ai téléchargé des choses, ouais, d'une autre dimension, en tout cas, des choses qui m'ont vraiment touchée profondément, en fait. Et j'ai vraiment accompagné cette âme, c'est ça aussi. J'ai l'impression de faire ma mission de passeuse d'âme, à laquelle je sentais que je me connectais depuis quelque temps. Et je sens que j'accompagne cette âme à vraiment aller dans l'autre dimension, quoi.
C'est intéressant parce que en fait c'est comme si toi tes IMG elles te servaient de clé d'éveil parce que la première tu quittes la voie toute tracée qui était professionnelle, c'est la première prise de conscience. La deuxième, bah, comme tu disais, tu prends une voie professionnelle mais tu te connectes à l'invisible. Et la troisième, c'est comme s'il y a tous les voiles qui pétaient pour que tu puisses
Oui.
être vraiment dans ton authenticité, quoi.
Complètement. Et je pense que c'est cette troisième IMG qui a préparé ma maternité, puisque Margot est arrivée, enfin, je suis tombée enceinte 9 mois plus tard, après cette troisième IMG. Et aller dans la matière, c'était très compliqué pour moi jusqu'à là. La preuve, hein, c'est que symboliquement, bah, ces grossesses n'arrivaient pas à leur terme, alors pour des raisons génétiques, mais. Donc, ça a préparé tout ça dans la matière, ça c'est sûr. Et c'est complètement vrai ce que tu dis, que d'ailleurs j'avais une mentor qui m'avait dit que quelque part ces IMG avaient été quelque part une sorte de quête initiatique pour moi et que tout passait par le corps. Et dernièrement, alors je n'ai pas vécu une IMG, mais j'ai dû vivre une IVG. J'en parle là parce que bah, je pense que c'est important pour moi de le dire publiquement. Et quelque part, eh bien, ça, je sens qu'il y a une boucle qui s'est bouclée. Parce que oui, je passe par le corps pour venir intégrer des choses. Mais je crois que l'époque où ça devait passer par le corps et de manière très émotionnellement dure, sous forme d'épreuve quelque part, je pense que cette époque-là est révolue. Je pense que ça peut passer, ça peut pour moi en tout cas passer par le corps autrement que de cette manière-là. Je me suis inscrite à la danse dernièrement, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune et je pense que c'est la suite pour moi, c'est-à-dire faire une sorte de, comment dire, c'est pas de deuil, mais un cycle s'est clos, je le sens, un cycle s'est clos avec le fait que tout devait passer par mon utérus. Voilà. Je pense aussi que ça passait par mon utérus parce qu'il y avait un gros nettoyage à faire, un nettoyage de mémoire ancestrale, un nettoyage de. Voilà, comme je disais, hein, j'ai eu une éducation très très classique. Je fais partie des familles assez classiques. Donc, qui dit classique dans nos vies occidentales et françaises, dit dépassé aussi avec des viols, avec des incestes, avec des non-consentements, etc. Hein. Ce sont finalement les drames les plus partagés dans nos familles. Et je sens que c'est un gros travail de nettoyage que j'ai fait à travers ces IMG aussi. Ouais.
Il y a une question qui me vient, c'est qu'est-ce qui se passe dans le couple? Parce que trois IMG de suite, normalement, souvent, quand il y en a une ou
Oui.
deux, un couple pète, enfin, très
Oui.
régulièrement au bout d'une
C'est
IVG, d'un
50%,
IMG.
ouais.
Et là, je me dis, ben voilà, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Qu'est-ce que ça vient
Oui.
bousculer
Alors c'est ça qui est assez incroyable quelque part, parce que nous, c'est venu nous renforcer. Voilà. C'est-à-dire que Au bout de la première, ça nous renforce. On a su plus tard, ben, il y a quelques temps d'ailleurs, que nos familles s'étaient dit, c'est vrai, je tombais enceinte rapidement après qu'on soit ensemble, donc notre couple, il était tout jeune, il aurait pu vraiment éclater en morceaux, quoi. Hein. Ils pensaient d'ailleurs, hein, nos familles pensaient que ça allait péter. Encore plus à la deuxième. À la troisième, ils se sont dit, bah là, c'est complètement fini. Et en fait, c'est tout le contraire. Au bout des deux premières IMG, on s'est mariés. Après la troisième, on a acheté une maison ensemble. Et puis voilà. Donc, en fait, ça nous a renforcés. Et je pense que ça nous a renforcés autour d'un projet commun qui est devenu une forme de quête, en fait. Une quête de couple, c'est réussir à avoir un enfant. Mais une fois qu'on l'a, cet enfant, une fois qu'on l'a, qu'on a idéalisé pas mal de choses, hein, parce qu'on aurait mis 7 ans finalement à l'avoir, Margot, elle est là, ça se passe très bien, je vis ma fonction de maman, je vis, Alex vit sa fonction de papa, etc. On oublie un peu notre couple quand même, voilà, parce qu'on sait qu'on est capable de le mettre un peu entre parenthèses les premiers temps, et puis Margot a bonne vitalité, hein. Bon, en même temps, avec par où elle est passée, hein, le chemin avait été fait avant elle, mais il a fallu quand même qu'elle passe par des mémoires, hein, aussi. Donc, elle a, on va dire, une bonne vitalité, le manifesting generator, hein, ça te parle, Ludo. Voilà. Elle fait passer nuit pendant 3 ans et demi. Au moment où on arrête les siestes, elle les fait. Donc, on s'est dit après, on aurait dû arrêter la sieste bien plus tôt. C'était un peu un trop-plein d'énergie, etc. Et puis, ben, on commence à retrouver un équilibre, etc. Mais c'est comme si, en fait, notre quête, elle était terminée, en fait. Notre mission était terminée. Notre mission à Alex et moi, c'était de réussir à enfanter, en fait. Et notre couple fait beaucoup moins sens, en fait, après. Donc, on continue à trouver, on va dire, des centres d'intérêt, du plaisir dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, mais on devient un couple, quelque part, plus d'amis, finalement, tu vois. Voilà, qui
Oui, je
sont.
connais.
Ouais. Ouais, et je dirais même, j'utiliserais même le mot de fraternel, tu vois, comme s'il y avait vraiment un rapport d'âme à âme très. Ouais, très, très profond. On a vécu. Parmi les choses les plus difficiles et confrontantes au monde, en fait. Donc, il y a plein de choses qui nous semblent aussi illusoires, dépassées, à côté, tu vois? Voilà, c'est tout ça. Et puis lui, en parallèle, il quitte l'entreprise dans laquelle il a passé les 5 dernières années pour créer son entreprise. Et puis finalement, bah, ça ne se fait pas, il y a le Covid qui arrive, etc. Donc, il se reforme, il retourne à une autre formation, et en parallèle de ça, en fait, le fait d'avoir imaginé qu'il allait switcher, créer une entreprise, etc., il y a un avant et pas un après, enfin, il y a un avant-après et pas un retour qui est possible. C'est-à-dire que dans sa tête, il met fin à toute une manière de vivre, en fait. Un standard de vie où il y avait le papa, la maman, l'enfant, le salariat, etc. Tout ça part en éclats et forcément, le couple part en éclats aussi. Voilà. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Je crois qu'on aurait pu faire un livre à 3 tomes parce qu'on a toujours beaucoup parlé. Donc, on a essayé d'ailleurs même de vivre autrement, peut-être de continuer ensemble dans des maisons séparées, etc. Mais voilà. Et les derniers événements ont fait que ben non, notre histoire, elle est vraiment terminée. Mais ça a été un détricotage. C'est-à-dire qu'on a terminé comme on a commencé, en fait. Voilà. Et ça a été un détricotage vraiment maille après maille, émotion après émotion, douleur après douleur, et malgré tout, l'amour en fond de toile, quoi, ou en toile de fond.
Bon, après tu nous disais qu'après la troisième IMG, il y a quand même Femina Quest qui arrive. Parce que là, c'est
Alors,
un tournant aussi, enfin, une
ouais.
évolution, mais pour moi, il y a un changement quand même.
Oui, c'est pas après la troisième. Alors, je sens que je télécharge un truc là, mais c'est pas là que ça prend matière. C'est après Margot. Donc, et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que Femina Quest me tombe dessus au moment où j'arrête d'allaiter Margot. Genre, je vais pas dire 48 heures après, mais enfin, c'est lors de 3 semaines, 3 semaines, 1 mois. J'ai les premiers archétypes qui arrivent et je me mets à rédiger 30 pages, comme ça, en me demandant ce que je vais faire de tout ça. Et puis je comprends que bah, c'est effectivement un, quelque part c'est un concept d'accompagnement à devenir soi pour les femmes, à enlever des couches de croyances, etc., avec un parcours en 7 étapes, avec des archétypes. Et je comprends aussi que c'est ni plus ni moins que le trajet que moi j'ai fait, mais modélisé en fait. Voilà, modélisé. Donc oui, Femina Quest, là, il se passe un gros gap parce que, alors je le teste, on va dire, en atelier, en présentiel, voilà, archétype par archétype, sur Dijon à l'époque. Et puis je me dis, il faut que j'en fasse, donc j'en fais un livre, j'en écris un livre que j'auto-édite. Et en parallèle, je vais en faire un programme en ligne. Et ce programme en ligne, je le lance, il est opérationnel au moment où on est confiné, en mars 2020. Et là, je me dis, bon, ok, c'est la fin. Et non, en fait, c'est que le début, parce que là, ça explose. Quand tout le monde est à l'arrêt, moi, en fait, j'avais juste préparé la suite, en fait. Et tout le monde est à l'arrêt, et donc ça s'inscrit. Les 2 mois où tout le monde se dit qu'est-ce qu'on va faire, etc., moi, j'ai du boulot par-dessus la tête, quoi. Voilà, et donc c'est Femina Quest qui arrive avec son programme en ligne, avec différentes choses, avec une communauté qui se construit, avec des week-ends en présentiel, avec on fait aussi un clip, on fait un court-métrage avec Il était une fois le bas, avec 30 personnes, pas que des femmes, des hommes aussi. Donc c'est toute l'aventure Femina Quest qui évolue et qui aujourd'hui, avec le grand tournant que j'ai opéré de ces derniers mois, ces dernières semaines, eh bien, quelque chose qui va rassembler les hommes et les femmes, les entrepreneurs et les non-entrepreneurs. Donc voilà, comme un gros rassemblement de qui je suis et de ce que j'ai pu faire.
Et justement, quand t'as Femina Quest qui, voilà, le confinement qui explose, enfin, il se passe quoi à l'intérieur de toi à ce moment-là?
J'ai cette. J'ai cette fulgurance de me dire, ça y est, j'y suis. Ça y est, ça fait. J'ai commencé en 2010. Donc là, on est en 2020 et ça fait 10 ans. Et je me dis, j'ai quand même galéré. Ça n'a pas été toujours évident. Alors, même si entre-temps, j'ai eu un institut, ça tournait, voilà. Mais je n'avais pas l'impression d'être exactement là où je devais être. Avec Femina Quest, j'ai cette sensation de me dire, je suis là où je dois être. C'est ma mission. C'est ça. Et j'ai l'impression d'être. Dans une forme de réalisation personnelle, professionnelle, une forme d'aboutissement, voilà. Avant que je comprenne que ce n'est que l'aboutissement d'un cycle et qu'il y en a un autre qui redémarre pas très longtemps plus tard.
C'est la première. En fait, c'est comme si tu étais enfin sur ton vrai chemin, mais c'est que la première marche.
Exactement, c'est ça.
Oui,
Et en même
c'est.
temps, tout ce que j'ai fait en amont avec le maquillage, avec l'esthétique, avec l'énergétique. Je sens à quel point c'est tout ça qui a donné lieu en fait à Femina Quest et à qui je suis. Que c'est ça qui me donne cette faculté aussi à comprendre mes clients, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, parce que j'ai expérimenté tellement en amont que je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne pas. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et pour les particuliers, j'ai développé une telle, on va dire, subtilité dans mon analyse des blocages que je vais droit au but aussi. Donc, ces 10 ans, en fait, ils ont été juste nécessaires, quoi. Et ça, pour l'ancienne perfectionniste parfaite, celle qui veut tout faire parfait que je suis, de comprendre à quel point, en fait, l'échec est contenu dans la réussite et que surtout la vie et la réalisation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, n'est pas une ligne continue, mais c'est bien une succession de cycles. Ça aussi, vraiment la personne en quête de passionnée idéaliste que je suis, ça vient mettre de l'apaisement et enlever une certaine forme d'urgence, en fait, tu vois, une certaine forme d'urgence dans les choses. Parce que j'ai été drivée beaucoup par l'urgence pendant une grande période de ma vie, en fait.
Et après Femina Quest, ça évolue aussi.
Après Femina
Parce
Quest,
que
il
voilà,
y a
c'est.
vraiment cette envie, ouais, de me spécialiser auprès des entrepreneurs. Parce que tout comme j'ai transmis avec Femina Quest, finalement, ce que j'avais, on va dire, traversé, en faisant un condensé pour que justement éviter les écueils et puis surtout de perdre du temps, je fais finalement la même chose avec la Next Step Academy. Je mets dans un seul lieu et avec 9 modules et des expertes qui interviennent à mes côtés, 9 expertes, eh bien, la possibilité d'aller droit au but aussi par rapport à comment créer son concept, comment on crée des offres, comment on gère son entreprise, etc. Donc là aussi, c'est une forme de transmission de ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu explorer pendant toutes mes années d'entrepreneuriat pour faire gagner du temps aussi à mes clients. Voilà. Mon fonctionnement est toujours un peu similaire en fait. C'est j'explore, j'expérimente, je transcende, je transmets. Voilà. Et dans ce qui est en train de, je peux le dire là, ça va s'appeler Quest. Ouais, Quest. Donc, parce que Femina Quest et parce que la quête 2, c'est quelque chose qui m'anime. Mais ce Quest-là, eh bien, il va chapeauter Femina Quest et d'autres choses, en fait. Pour moi, ça va être une sorte d'institut d'exploration du monde de demain qui va rassembler les pionniers, en fait, les gens qui ne renient pas leur passé, leurs racines, mais qui font un travail de nettoyage, qui font un travail de compréhension, et puis qui veulent participer activement à la construction du monde de demain. Donc il y aura des propositions ouais, de fonctionnement ensemble, en fait. Vraiment l'envie de contribuer à plus large échelle, et cette fois sans séparer les hommes des femmes, sans séparer les pros des non-pros, etc. C'est vraiment un travail de rassemblement et plus seulement de transmission, parce que je sens aussi qu'avec ce grand cycle qui a pris fin, je suis sur la queue de poisson, mais je sens encore quand même que c'est là, je disais explorer, transcender, transmettre. Mais il y a quelque chose de très yang là-dedans et de très aussi fatigant, c'est-à-dire c'est j'ai la tronçonneuse et j'y vais. Allez-y maintenant que le passage est fait, vous pouvez y aller, tu vois. Et j'ai envie de beaucoup plus de douceur pour moi, tout comme je disais tout à l'heure que les IMG et cette dernière IVG qui a clôturé ma vie avec mon ex-mari. Quelque part, voilà, j'ai compris que ça pouvait être aussi plus doux et que j'avais plus forcément à me faire vivre ce genre de choses, que ça pouvait le passer par le corps, mais peut-être par la danse, par des choses, tu vois, de cette nature-là. Et donc, dans cet institut du monde de demain, eh bien, il va vraiment y avoir cette notion aussi d'exploration par les membres. Voilà. Moi, je vais être là en soutien, mais je vais être là aussi à côté. Je vais pas être là forcément devant. Sur certaines choses, oui, mais pas sur tout. Et c'est vraiment ça, ce côté où la verticalité rejoint l'horizontalité qui aujourd'hui me parle. Dans une posture qui est plus douce et je pense à laquelle aspire de plus en plus de monde. Je pense qu'on en revient de ce côté, ce que j'appelle starification dans l'entrepreneuriat, où il y a le guide qui est devant et avec toutes les dérives que ça peut avoir. Je sens à quel point le monde aspire à une horizontalité. Voilà.
C'est un beau programme. Suis
Ouais.
cu curieux de découvrir ça.
Oui, et tu vois, encore une fois, je te parlais de l'urgence tout à l'heure, que avant, dès que j'avais une idée, un concept, etc., il fallait que ça aille vite. Et là, ça fait 3 mois déjà que je suis dessus. Et tu vois, c'est peut-être la première fois que j'en parle publiquement de Quest, alors que ça fait un moment que j'ai le nom, ça fait un moment que j'ai les pièces du puzzle. Et je prends mon temps. Voilà. Je suis plus dans l'urgence des choses comme avant. Je me suis yinisée au fil des années et des décennies.
Merci
Merci à
Florence
toi, Ludo.
d'avoir dévoilé un petit peu ton chemin de vie.
Ben merci à toi. J'avoue que retracer tout ça, le condensé de sa vie en 3 quarts d'heure, enfin 50 minutes. Ben, c'est une belle expérience. Ça amène beaucoup de clarté aussi et ça permet de faire le chemin sur tout ça et de se dire, ouais, il s'est passé tout ça quand même. Donc, je te remercie beaucoup.
En tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu, d'avoir osé. Merci à toutes les personnes qui suivent ces interviews. Et puis, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager, dites à vos amis que ça existe. Mettez des petits cœurs partout, c'est génial. En tout
C'est un
cas,
super
je vous
format.
souhaite, ouais, je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous dis au revoir et au prochain interview, alors.
Au revoir et merci Ludovic.
Merci à toi, Florence. Au revoir, tout le monde.